fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Quels sont les dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux en période préélectorale? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le professeur Kodjon Doukouma, expert en droit numérique, Henri-Christian Longuenja, secrétaire exécutif du collectif 24, sera également parmi nos invités pour échanger autour de ces sujets, des questions et préoccupations. Eh bien, vous pouvez déjà les préparer pour les poser à nos invités. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Deuxième thème de cette émission, nous allons parler de l'importance de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Vous savez, les chefs de l'État a inauguré le 30 octobre dernier, dans la commune de Limité, ici à Kinshasa, la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Quelle est l'importance de cette maison? Eh bien, on en parle avec le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC en sigle. Il s'agit de Monsieur Godefroy Kizaba. Eh bien, merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Et merci d'appeler pour participer à cette émission. Appelez au 0, composez les 099-706-9941. Alain Goy, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation et la coordination de cette émission. Au micro, Jody Daniel Keshama. Bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Bien, bienvenue dans ce programme, dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la désinformation. Quels sont les dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux et surtout en cette période électorale? On a l'impression que, d'après certains experts, la désinformation prend de plus en plus de l'ampleur à l'approche des élections. Certaines personnes publient des fausses informations à longueur des journées. Elles trompent, dénaturent la réalité des choses et s'attaquent à certains candidats. Il y a des photos qui sont, tripoter, etc., pour faire croire des choses qui ne le sont pas en réalité. Alors, pour les experts, la manipulation de l'opinion publique par des fausses nouvelles prend de l'ampleur et cela présente des dangers. Alors, quels sont ces dangers et comment lutter contre ce phénomène de désinformation, les fake news, etc.? Nous avons en ligne Henri-Christian Longuenja, qui est secrétaire exécutif du collectif 24, une structure qui fait la promotion du droit d'accès à l'information. Henri-Christian, bonjour. Henri-Christian, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio
Capi. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons également en ligne le professeur Kodjon Doukouma, expert en droit numérique. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi. Et bonjour, collègues du panel.
Bienvenue, professeur. Voilà, bienvenue dans cette émission. Professeur Kodjo, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par désinformation.
Bon, en fait, la désinformation, c'est le contraire de tout ce qui est information. Dans le cadre de notre loi sur la liberté de presse, ce sont tous les faits, tous les événements qui sont collectés, vérifiés, qui présente une objectivité et une valeur d'information générale pour le public. Tandis que la désinformation, justement, c'est le détournement de l'information pour des fins qui sont suivant nuisibles aux intérêts des tiers ou à l'ordre public. C'est aussi ce que les Français ont appelé un fox, tout ce qui est fake news, et vous avez bien présenté le contexte électoral, qui est un contexte où on fait de la promotion de l'image et des personnes, et donc on entrave également la personne et l'image d'autrui. Après, il y a des qualifications pénales en rapport à la désinformation, mais bon, voilà, en gros, c'est d'abord la définition générique de la désinformation qui a pris de l'élan dans le fait qu'il n'y a plus que les journalistes professionnels tenus à la déontologie qui, sur Internet, peuvent propager l'information professionnelle, mais il y a aussi à peu près 5 milliards d'internautes qui peuvent, eux aussi, transformer leur téléphone en mass-média et ne pas subir une quelconque contrainte déontologique.
Et pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux sont des plateformes que ces personnes qui font la désinformation préfèrent utiliser?
Bon, en réalité, l'infrastructure de télécommunication est passée avec les technologies de l'information et de la communication en infrastructure de l'information. Donc, ensuite, l'Internet a apporté l'infrastructure de liberté. Donc, on est là en train de concilier ce véhicule, ce canal de la liberté d'expression avec la retenue que chacun a et aussi le fait que l'État ne sait pas réguler ce secteur. Donc, en bref, l'Internet est lui-même la cause de la propagation de la fausse, de la désinformation, simplement parce que on a donné l'outil d'information 2.0 à tout citoyen et ces citoyens l'utilisent à des fins qui ne sont pas cadrées sur le plan déontologique. Et puis, une deuxième chose, c'est que la guerre médiatique a toujours existé. Ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait lancer des tracts ou donner de la fausse information à son adversaire, soit pour démoraliser, soit pour orienter son action vers des impasses. Mais dans le contexte électoral, nous sommes aussi dans des joutes électorales, comme on le dit. Nous sommes aussi dans une bataille qui devrait voir tel candidat être disqualifié au profit de tel autre. Et donc, les circonstances font que les gens fabriquent de l'information. Et cette information, parce que vous demandez la cause, devient plus facile à fabriquer parce que ça demande simplement l'imagination, un téléphone, et comment on appelle, un accès à Internet avec un profil diffuse cette fausse information. Donc voilà, c'est ça la cause, elle peut paraître simple ou simplifiée, mais c'est cela.
Bien, Henri-Christian Longuenja, vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24. Aujourd'hui, les gens fabriquent de plus en plus des informations qui sont diffusées sur TikTok, Twitter, Facebook, etc., et surtout en cette période préélectorale. Alors, quels sont les dangers que cela représente pour vous, Henri-Christian?
Oui, merci. Pour compléter ce que le prof venait de dire, je pense qu'avant d'entrer dans les dangers, il est important qu'on puisse distinguer plusieurs concepts. Il y a, là, on parle de la désinformation, bien sûr, mais ça peut prêter confusion des fois lorsqu'on parle de mésinformation ou l'information malveillante ou soit des rumeurs ou soit l'information proprement dite. La mésinformation, il est différent de la désinformation. Dans la mésinformation, l'objectif n'est pas nécessairement de nuire. Par exemple, le porte-parole du gouvernement dit que le président n'est pas malade et puis par après, la famille peut dire qu'il est malade. Donc, on essaie de mésinformer juste pour cacher quelque chose et puis par après, la vraie information sort. Mais ce n'est pas dans l'objectif de nuire. Mais parfois, c'est pour la paix, pour l'intérêt public. Et tandis que l'information malveillante, c'est après analyse, on tire des conclusions, on trouve que ça, ce n'est pas une bonne information et ça se confond souvent avec l'infotox, ainsi de suite. Et la rumeur n'est pas une mauvaise information ni une vraie information, mais c'est une source d'information surtout. Même pour vous les journalistes et nous les défenseurs des droits humains, c'est une source d'information dont le producteur n'est pas connu et c'est une information à prendre en compte où vous pouvez l'opposer avec d'autres informations et tirer vous-même de la conclusion. Donc, pour dire que la rumeur peut être vraie, tout comme est fausse. Mais par contre, la désinformation, c'est comme le prof disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose où l'auditeur ou le producteur a produit. Vraiment, c'est dans le but, on fabrique une situation dans l'objectif de nuire. Donc, l'objectif de la désinformation, c'est justement pour nuire, pour discréditer, et dans le cadre électoral, s'il y a des désinformations, c'est justement pour nuire ou discréditer l'autre candidat ou l'autre challenger, et on les fabrique partout. Et la source, généralement, ce sont les internautes, pour la plupart des cas, ce sont les quiches des partis politiques, les challenges, où on fabrique justement avec cet objectif de nuire. Et lorsque déjà vous comprendrez que, les auditeurs comprendront que, lorsque déjà l'objectif n'est pas sain, l'objectif est de nuire, l'objectif est de discréditer l'autre, on peut discréditer même un bon candidat, on peut discréditer même quelqu'un qui peut servir à ce pays, tout simplement parce que on a fait des informations à son égard, on a fabriqué, et la population ce n'est pas mise, ce n'est pas distinguée. Qu'est-ce qui est la bonne information, qu'est-ce qui est la désinformation, et il va tomber maintenant dans cette entreprise-là et ça crée des problèmes. Et du coup, les dangers, c'est quoi? Les dangers, d'ailleurs, je venais de dire tout à l'heure qu'avec la désinformation, on peut carrément faire perdre au pays un bon candidat, une bonne personne qui peut contribuer au développement ou soit à la bonne gouvernance de ce pays. Et à ce moment-là, le pays perd. Deuxième inconvénient, c'est qu'avec la désinformation, on distrait l'électeur. L'électeur n'a plus confiance au processus et, conséquence, chacun tire des conclusions à sa manière. Vous voyez, par exemple, maintenant, lorsqu'on parle, il n'y aura pas d'élection ou il y a élection, ainsi de suite. Chacun donne ses avis et ça distrait maintenant l'électeur et ça peut nous amener demain à une résistance, à une un désengagement de la population, de l'électeur, et du coup on va avoir un taux de participation très très faible. Et avec ce désengagement des candidats, de certains candidats, des électeurs, ça peut aussi nous conduire demain à une absence de consensus, et cette absence de consensus entre les parties prenantes peut maintenant créer des psychoses au sein des populations avec toutes les conséquences et détruire même l'image du pays, parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas de bonnes élections parce que les gens ont déjà des clichés dans leur tête et ça crée maintenant la méfiance, ça discrédite tout un processus. Et lorsque ça discrédite ainsi, ça amène maintenant le pays à des troubles, et des troubles maintenant ne permettent pas que le pays puisse avancer. Donc, la mésinformation, c'est vraiment quelque chose à combattre. Voilà pourquoi même maintenant, au niveau du collectif 24, nous sommes en train de former les gens par rapport à ça. Comment découvrir qu'il y a une photo, c'est une photo de la qui est fabriquée dans l'objectif de nuire. C'est le vidéo ici, c'est dans l'objectif de nuire. Et il y a des techniques maintenant pour tester et savoir que vraiment c'est dans l'objectif de nuire. Je donne un exemple plus récent. Dernièrement, lorsque le président de l'ESID, candidat de l'AMOU, Martin Fayou, était arrivé à Kananga, on a fait passer l'image qu'on l'a jeté des pierres, on l'a hurlé, tout ça. Et lorsqu'on fait passer cette vidéo-là, je prends ces vidéos, je check avec des procédures, je trouve que c'est le vidéo qui était lorsque le candidat Sesanga était à Kananga. Et on colle maintenant, on a dit non, on a fait à Martin Fayoul. Donc, vous voyez, on désinforme dans le but seulement de nuire pour dire que, par exemple, les dirigeants ne sont pas démocrates, on ne veut pas que les opposants puissent circuler librement.
Donc, Henri Christian, ces personnes-là peuvent même manipuler des vidéos, prendre le corps de quelqu'un d'autre, la tête de quelqu'un d'autre et mettre...
Effectivement, ces personnes, ce sont des gens qui connaissent bien l'outil informatique, qui connaissent bien l'outil informatique, qui peuvent bien manipuler et les vidéos, et les sons, et l'image. Et c'est comme ça que la population doit être vraiment prudente. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans les vidéos, dans les images et dans les sons qu'on va dire que c'est vrai. On peut prendre ma voix comme ça, sur le top Radio Okapi, et puis dire que non, voilà, Monsieur Henri a dit ceci, alors que on prend ma voix, on désinforme et on insère quelques mots dans mon discours pour me faire parler. Mais lorsqu'on va checker, on va trouver qu'il y a des séquences qu'on a pu insérer dedans. Il en est de même des vidéos. C'est comme ça, vous voyez, même certains médias étrangers consacrent même des émissions pour montrer aux gens comment l'infotox est en train de faire les chemins. Et surtout que nous avons une population extravertie. La plupart des gens qui font ces désinformations, ce sont des gens, pour la majorité, qui sont à l'extérieur du pays. Et lorsqu'ils envoient une vidéo qui vient de l'extérieur dans les YouTube, ainsi de suite, du coup, la population va dire, non, moi, mon frère m'a envoyé, il est aux États-Unis, il est au Canada, il est en France, il est ceci. Donc, c'est vrai. Alors que vous regardez, ce n'est pas vrai. Les vidéos que je venais de parler tout à l'heure venaient des États-Unis. Mais ce n'était pas vrai. Donc, c'est pour dire que la désinformation vraiment a conquis notre terrain, et surtout dans le contexte électoral où la méfiance règne entre les candidats et ainsi de suite. La désinformation, c'est vraiment quelque chose à combattre et que la population doit être formée pour tester et ne rien partager. Oui. C'est, donc, on est sûr, parce que maintenant, il y a la loi sur numérique, il y a maintenant des lois par rapport à le code, par rapport à tout ce qui est télécommunication, ainsi de suite. Et vraiment, on réprimande maintenant pour les auteurs de la désinformation.
Bien, nous parlons des dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux, et surtout en cette période électorale. Des questions et préoccupations, appelez au 099-706-9941. Nous avons déjà en ligne Pierrot de Lumbashi et Baudouin de Kasumbalesa.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, nous parlons des fake news en période électorale. Il y a de plus en plus de fake news, des gens qui fabriquent des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour au professeur Dukuma, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Pierrot, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la désinformation?
Merci beaucoup. Je disais, c'est Pierron Panyaoui. Je peux dire que actuellement dans les réseaux sociaux, surtout, je parle surtout parce que les politiciens utilisent surtout Twitter, TikTok, Facebook. Là, nous constatons des désinformations qui sont devenues des antivaleurs souvent avalisées dans les sièges des partis politiques. Les politiciens profitent de cette pratique-là et ils trouvent que c'est déjà une pratique qui est devenue culturelle et de vie normale. Je parle aussi de cet aspect parce que la majorité de ceux qui le font sont dans des partis politiques. Quand ils publient ce genre de informations, nous n'avons jamais trouvé leur dirigeant dans des partis demander ou sanctionner ces gens-là, pour elles, on trouve que c'est normal, c'est devenu une vie normale, et c'est pourquoi la jeunesse aussi, hein, parce que je le disais dans des anciennes émissions que vous avez produites avec le professeur qui est notre invité aujourd'hui, nous avions insisté encore pour la formation, on devait d'abord éduquer les jeunes quand on a trouvé des réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, nous subissons ce que le ministère de peut-être de communication et de d'autres ministères.
Pierrot, quelle est la question que vous adressez aux invités, rapidement?
La question que je vais adresser à l'invité est de savoir. Aujourd'hui, nous avons trouvé que pour les Congolais, parce que je parle aussi étant communicateur dans un parti politique, nous avons trouvé que dans la vie des Congolais aujourd'hui, les Congolais consomment le plus souvent ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas de qualité, et il est attiré par des choses qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas vraies.
Oui, donc le Congolais consomme plus les fake news. Alors, quelle est la question?
Maintenant, la question est de savoir, lorsque nous trouvons que dans ce moment ici, nous avons besoin de l'attention de tout le monde. Par exemple, j'affiche que je suis candidat.
Pierrot, jusque-là, vous n'avez pas posé de question. Bon, voilà, il y a aussi des soucis au niveau de la ligne téléphonique. On va accueillir Baudouin de Kassoumbalesa. Baudouin, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour, merci. Je salue les intervenants, donc les invités et tous les auditeurs de la radio Capi. Je suis vraiment intéressé par le sujet. Je pense que c'est très important, la loi sur la numérique. Il n'y a pas assez longtemps qu'on nous parlait de cette loi. Et jusque-là, on ne sent pas l'applicabilité de cette loi à notre pays. Surtout pour ce qui concerne les gens qui publient à partir de l'étranger. Que prévoit cette loi? Et nous constatons que la plupart des informations là n'ont pas de source locale. Ça convient, comme vient de les inviter tantôt là, des États-Unis, de la France, un peu de partout là. Donc, ce sont nos frères qui vivent là à l'étranger. Ils sont en train de manipuler ces désinformations là-bas pour nous envoyer nous ici. Et là, par rapport à ça, que dit la loi sur la numérique? Est-ce qu'on peut le poursuivre? Dans quelle manière, façon, ou c'est comment? Parce que jusque-là, ça sera toujours comme ça, et puis nous allons toujours nous plaindre chaque fois. Il n'y a pas de sanctions. Je ne sais pas s'il y a des sanctions quant à ce que l'invité quand même puisse nous éclairer. Parce que pour le moment, nous sommes en train de vivre des tensions par-ci, par-là, suite à des informations là-bas. Donc, si l'invité peut nous aider et nous éclairer, s'ils sont en collaboration avec les gestionnaires des réseaux sociaux, par exemple des Facebook, YouTube, WhatsApp et consorts, pour des mesures draconiennes afin d'empêcher ces genres des informations.
Merci. Bien, merci Baudouin de Kassoumbalesa, 099-706-9941. Appelez-nous à ces numéros pour participer à cette émission. Professeur Kodjo Ndoukouma, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie. Je veux dire que à la suite de Monsieur Henri Christian Longenja, le code pénal à son article 199 bis condamne les faux bruits. Ça veut dire lorsque vous diffusez des faux bruits par des médias classiques ou par les réseaux sociaux et que ces faux bruits portent le trouble dans l'État, vous avez la possibilité d'écoper 2 mois à 3 ans de servitude pénale. Et puis, si ces faux bruits ne sont pas lancés dans l'intention de pouvoir troubler l'ordre public de l'État, c'est la moitié, donc 1 mois à 1 an de prison. Dans le code du numérique, il y a c'est l'ordonnance loi 23010 du 13 mars 2023. Il y a 2 infractions qui sont qualifiées au niveau de l'article 359. D'abord, ça traite tout contenu abusif, en particulier le harcèlement par le biais des communications électroniques, qui se caractériserait par des pressions répétées et exercées sur une personne via un système ou un réseau de communication. Mais vous avez aussi un article intéressant, l'article 360 dans le code du numérique, qui punit l'initiation ou la diffusion de fausses informations par le biais des différents moyens électroniques tels que les réseaux sociaux, les systèmes informatiques ou les réseaux de communication électronique. Cela me permet de rendre quand même sa pièce à Monsieur Pierrot de Lubumbashi, pour lui dire qu'effectivement, c'est devenu une culture politique d'organiser des armées numériques et d'organiser des communicateurs. Et ils s'appellent communicateurs, alors qu'on devrait peut-être les appeler communicants, qui occupent tout l'espace médiatique et il n'y a plus aucun panache, aucune élégance dans les propos, mais ces gens-là ont le couvert de leur parti politique pour agir dans le sens des insultes, dans le sens de la désinformation, de la mésinformation, et même dans le sens de renforcer les rumeurs. pour M. Baudouin de Kasumba-Lessa, oui, le dispositif pénal est celui dont je viens de parler. C'est vrai qu'il y a un journaliste aujourd'hui correspondant de Jeune Afrique qui a été appréhendé sous l'inculpation de faux bruit, mais il y a un problème avec toutes les personnes qui commettent les mêmes infractions, mais qui ont du mal à être identifiées. Donc le grand problème, ce n'est pas la loi qui existe, mais c'est la capacité de l'État à pouvoir se doter des équipements qui permettent de faire le tracking des adresses IP, des numéros de téléphone, ainsi que de tous les appareils qui sont des sources de diffusion des faits infractionnels dont on a parlé. C'est vrai que l'autorité de régulation des postes et des télécommunications a essayé de pouvoir procéder à l'identification des abonnés et à faire ce qu'on appelle le CIR, Central Equipment Registry Identity. Donc d'avoir un central d'enregistrement des numéros des équipements pour pouvoir, dans le cadre des enquêtes qu'on appelle des enquêtes de criminalistique informatique, remonter jusque à ces personnes-là. Mais je finirai par dire que le CESAC, le ministère du numérique, le ministère des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information, ainsi que le ministère de l'information, ne remplissent pas le vide institutionnel qui correspond à cette liberté d'accès à Internet, qui correspond également à cette libre circulation des informations sur Internet. Vous ajoutez à cela, Monsieur Henri-Christian Longuet déjà le disait, tous les outils d'intelligence artificielle qui fabriquent du vraisemblable. Vous avez tout ce qui est Photoshop. Vous avez les logiciels de Photoshop, donc qui fabriquent du vraisemblable, quoi. Oui. Ça veut dire, vous avez également toute cette propension que nous, Congolais, nous avons à la consommation de la bêtise et de l'extraordinaire. Mais sinon, cette prise en charge des choses n'est pas assurée de manière institutionnelle par une autorité qui aurait pu être le CESAC. Parce que en France, où je suis d'ailleurs, vous avez le CSA qui a fusionné avec l'ARCEP, qui donne l'ARCOM. Donc, vous avez un régulateur de contenants aujourd'hui et un régulateur de contenu qui fait le même travail sur Internet, là où il le faisait avant, sur les réseaux des télécommunications et à la télévision.
Professeur Koudjou, Baudouin nous a dit, nous révèle que la plupart des fake news proviennent de l'étranger, des Congolais qui sont à l'étranger et qui les balancent ici. Ah. Est-ce que vous confirmez cela?
Oui, je confirme cela parce que vous avez un monsieur qui s'appelle Bokechou Premier, tout le monde le connaît. Vous avez la plupart des personnes qui sont à l'étranger, qui ont une meilleure capacité technique. Vous avez également des gens qui ont une bande passante, donc l'étranger est l'une des sources manifestes de destination des fausses informations sur la RDC. Mais il y a un article du Code du numérique, je pourrais le trouver par la suite, qui donne une compétence quasi planétaire à nos forces de police, dans le sens où cet article du Code du numérique, donc l'ordonnance loi du 13 mars 2023, dispose que est supposé commis sur le territoire de la République démocratique du Congo toute infraction qui se commet sur Internet et qui est accessible à partir de la RDC. Et donc, c'est nos capacités de police qui pourraient peut-être être débordées en ce sens-là. Mais les réseaux sociaux, parce que monsieur de Kasumba-Lessa Baudouin en a parlé, il dit, mais pourquoi nous n'avons pas une collaboration avec les plateformes numériques à l'étranger? Vous avez des règles qui obligent, en Europe, hein, vous avez des règles qui obligent les réseaux sociaux à pouvoir rendre inaccessible ou à supprimer tout contenu qui viole les droits d'autrui. On le fait plus facilement avec tout ce qui est images sanglantes, images de violence, avec tout ce qui est images de nudité. Mais pour ce qui est du contenu de l'information, pour savoir si c'est de la désinformation telle que définie par Monsieur Longuenja, les plateformes ont des politiques de règles de communauté différentes. Par exemple, Facebook utilise des fact-checkers. Ça veut dire, par exemple, il y a la guerre avec la rébellion avec le M23, Facebook, dans ses règles de communauté, a des règles, des relais physiques qui vérifient la situation au niveau de ces zones et qui utilisent une attention plus accrue pour pouvoir même fermer certains comptes des personnes qui font la désinformation. Ce qui n'est pas le cas avec TikTok, ce qui n'est pas le cas avec Twitter, ce qui est moins le cas avec YouTube qui demande le signalement. Mais je conclus en disant, à la suite de M. Henry Longenja, qu'il y a eu aux États-Unis 120 millions d'Américains qui, pendant la campagne électorale opposant Trump à Hillary Clinton, ont subi la désinformation supposée venant de la Russie et ils ont voté dans un sens assez biaisé par rapport à la désinformation bien organisée d'une structure étatique qu'ils ont subie. Voilà.
Bien, merci professeur Kodjo. Nous parlons aujourd'hui de la désinformation sur les réseaux sociaux, les fake news, etc. Quels sont les dangers que cela représente, surtout en cette période électorale? Justin Kalabia nous appelle de Bounia, Ismaël de Lubumbashi. Justin, bonjour et quelle est votre préoccupation? Ismaël de Lubumbashi, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, bonjour au prof. Oui, la question c'est savoir aujourd'hui, l'évolution de la modernité nous a permis aussi de communiquer sans problème. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Et quand c'est lui qui publie une fausse information, il est difficile d'être poursuivi, de savoir l'origine même de l'information. Comme mon ami Baudouin de Castombalet avait posé la question de savoir, la plupart de ceux qui nous envoient des fausses informations sont ceux qui vivent dans des pays étrangers. Mais je pose la question au prof de dire, comment on peut punir une personne par rapport à ces informations qui viennent d'une source étrangère pour punir une personne qui publie une fausse information qui vient d'une source interne dans notre pays? Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui compte tenu de la mauvaise information, quel est l'objectif de celui qui publie de mauvaises informations? Il a besoin de quoi? Et par rapport à cela, quel est le regard du gouvernement vis-à-vis de cette situation? Mais comme constat, le RAM, on a fait comme le RAM, hein, qui enregistrait les téléphones, c'était l'envie de quoi? Mais à ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons jamais suivi qu'une personne a été arrêtée et traduite à justice et tout le monde, le procès s'est tenu. Nous n'avons rien vu. Mais pourquoi nous avons perdu autant d'argent dans notre pays? Mais je vous dis, par rapport aux élections en 2011, nous avons vu ce qu'on ne pouvait pas vivre. Hein, entre l'Église catholique et la CENI et le gouvernement qui était en place.
Bien, merci. Merci.
Les résultats, l'Église catholique dit que ça, ce n'est pas les résultats. Mais comme aujourd'hui, nous tendons sur vers les résultats. Ainsi, la source qui est permis de publier les résultats, c'est la CENI. Si par exemple la CENI dit que ça, les résultats...
Bien, merci Ismaël. Nous retenons, vous avez dit tout à l'heure qu'on parle de la désinformation, aujourd'hui les fake news, mais on n'a jamais vu quelqu'un être arrêté condamné pour avoir publié des fausses informations. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour, quelle est votre question?
Ouais, bonjour également, monsieur l'invité. J'aimerais poser la question de savoir... À une époque, c'est comme si on avait aussi établi un paramètre là au niveau de WhatsApp avec les gens qui disent des choses là qui n'ont pas d'importance puissent être parfois localisées, que les fausses informations ne puissent pas prendre de l'ampleur au niveau des réseaux. Mais je ne sais pas si ça fonctionne normalement. C'est cela que je voulais poser à M. Lévité, si lui aussi est au courant. Sinon, je vous remercie.
Merci Safari. Depuis Iga Barrière, nous parlons aujourd'hui des dangers, que représentent la désinformation, les fake news sur les réseaux sociaux en cette période électorale. Henri-Christian Longenja, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Bon, merci. Je pense qu'une grande partie, le prof Kodjo venait de le dire tout à l'heure. Au premier auditeur qui voulait savoir quel est l'objectif, je pense que nous avons bien dit que l'objectif de celui qui crée la, distribue la désinformation, l'objectif c'est pour détruire, c'est pour nuire, c'est pour disqualifier notre candidat pendant les élections.
Alors, l'autre qui dit pourquoi jusque-là on ne les sanctionne pas, on connaît qu'il y a la désinformation ainsi de suite, mais pourquoi on ne sanctionne pas? Deux raisons. La première raison, c'est que, comme disait le prof tout à l'heure, notre pays n'a pas et des outils juridiques, il a ses vides juridiques, en même temps, il n'a pas de capacité vraiment pour checker tout ça et essayer de suivre la loupe, le lot de la désinformation qui est distillée chaque jour. Ce sont des milliards et ça traverse des frontières et il faut avoir vraiment une capacité efficace pour essayer de suivre tout ça. Et surtout que dans notre pays, vous voyez, lorsque ça passe par YouTube, ça passe par Google, dans notre pays, ces sociétés ne sont pas installées. Google, chez nous, c'est page cash, Google Cash. Donc, c'est une page similaire, mais ce n'est pas vraiment Google qui est chez nous. Donc, du coup, c'est difficile que le gouvernement, et surtout, c'est ça qu'aujourd'hui, qui se cherche, puisse avoir des moyens pour arriver à ça. Deuxième raison, c'est que parmi la source de la désinformation, il y a les politiques. Et les politiques de part et d'autre. Les politiques, que ce soit du gouvernement, du pouvoir, tout comme de l'opposition. Et lorsqu'on distille, ce sont des bonnes guerres pendant la campagne, parce qu'on veut détruire l'autre. On donne un exemple, un candidat par du genre. Mais on oublie que dans notre gouvernement, nous avons un ministère du genre. Du coup, on dit non, genre veut dire LGBT. Donc, des lesbiennes. Et du coup, ce matin, même l'un de mes fils me dit, papa, on ne peut pas voter tel parce qu'il veut prôner l'homosexualité. Donc, vous voyez, on a désinformé, mais on oublie que nous avons un ministère du genre dans notre gouvernement. Et cela ne veut pas dire LGBT ou l'homosexualité. Donc, lorsque on est soi-même producteur de la désinformation, c'est bien difficile qu'on puisse se sanctionner. Parce que la plupart, ce sont des quartiers politiques. Pas seulement à l'étranger, on sait que la majorité vient de l'étranger, mais aussi ici au niveau du pays, il y a des gens qui désinforment et qui prennent même des histoires et on les fait montrer pour vrai, parce que la personne qui est en train de désinformer, elle sait bien que l'information dont je suis en train de lancer ici, elle est fausse, mais elle le fait sciemment, expressément, volontairement, dans les buts parce qu'il veut nuire. Voilà pourquoi toutes les dispositions que Maître Ozo évoquait tout à l'heure condamnent de ces personnes parce que ce sont des infractions commises de manière vraiment délibérée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en train de voir maintenant qu'il faut plutôt conscientiser la population. Que la population elle-même, qui est plus consommatrice, ne puisse pas consommer du n'importe quoi. Il y a plus des infos toxiques, c'est-à-dire tout ce qui est toxique et qui sature le mental de la population, et à ce moment-là, ça aliène la population. Et il y a ces vides juridiques, comme disait Maître tout à l'heure, et il y a d'abord, pour prévenir cela, la population n'a pas accès à la vraie information, parce qu'il n'y a pas la loi d'accès à l'information jusque-là. Malheureusement, le Parlement est en train de fermer dans quelques jours, à moins que le président puisse en faire une ordonnance loi. Et là, ça peut quand même faire quelque chose de bien. Et il y a aussi un vide dans le cadre de la gouvernance de l'Internet. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne puisse pas utiliser d'autres techniques, même si nous n'avons pas Google chez nous, même si nous n'avons pas Facebook chez nous, ainsi de suite, et Twitter. Actuellement, il y a beaucoup de désinformations qui passent dans les Twitter, ainsi de suite. Mais le gouvernement peut utiliser certaines techniques de filtrage. Le filtrage, c'est différent de la censure.
Bien, mais Christian Longenja, est-ce qu'on ne peut pas, lorsque quelqu'un publie une fausse information, est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes qui peuvent permettre de remonter et puis de retracer, d'identifier la personne?
C'est très simple. Actuellement, avec les nouvelles technologies, surtout avec l'Internet, on ne triche pas. C'est très facile de remonter, même si on utilisait des pseudonymes, parce qu'actuellement, il y a même des sites, l'autre version, par exemple, de Figaro, qui peuvent vous montrer des histoires, juste pour vous faire rire. Mais les gens qui ne savent pas vont dire que Figaro a publié, mais c'est l'autre face de Figaro qui a pour l'objectif de faire rire les gens. Mais les gens vont prendre ça pour vrai. Alors, c'est facile de remonter parce que vous n'allez pas coopérer avec l'Internet. Et même si vous avez utilisé des fausses identités, parce que la plupart des gens utilisent les fausses identités, mais votre ordinateur, vous n'allez pas changer l'adresse IP de votre ordinateur, vous n'allez pas changer l'adresse IP de votre téléphone, et avec ça, on peut remonter, si c'est ça que le ministère des Télécommunications a des moyens et peut utiliser ces moyens, c'est plus facile à travers ces messages, ces photos, vidéos, tout ça, ça a été produit dans quelle machine et on sait bien localiser. Pourquoi lorsque nous utilisons HP ou soit Microsoft, vous achetez aujourd'hui, à l'instant même on vous dit non, acceptez tout ça pour que ça vous prenne en charge. Et tout ce que vous êtes en train de faire, Microsoft est au courant. Donc nous devons, notre ministère de numérique, c'est ça, doivent arriver à de telles technologies.
D'accord.
Et les gens qui travaillent doivent savoir même certaines techniques. Actuellement, nous parlons par exemple des images inversées ou des vidéos inversées pour savoir checker, il y a des moteurs partout, que ce soit dans Twitter, dans Facebook, Google, YouTube, presque même Instagram, partout il y a des moteurs que vous pouvez, on a mis tous ces dispositifs-là, que la personne peut checker, savoir que ça c'est vrai ou c'est faux, quand bien même ces sociétés-là eux-mêmes mettent un peu de filtres, mais ces filtres-là, lorsqu'on dit par exemple le sang, Facebook ne va pas faire passer des images du sang, mais lorsque maintenant vous écrivez Makila, Facebook ne connaît pas Makila, du coup ça va passer. Donc ce sont des choses, mais je pense bien que c'est notre propre gouvernement qui devrait aussi s'informer et se former dans tous les domaines de la sécurité numérique et essayer quand même de mettre fin à ça. Et surtout pendant la période ici électorale, matraquer ces gens-là, malheureusement, ce sont les mêmes qui profitent de cette désinformation parce que c'est à leur faveur pour qualifier d'autres candidats.
Bien, Henri Christian Longenja, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du collectif 24, une structure qui a fait la promotion du droit d'accès à l'information. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, merci à tous les auditeurs et merci à Prof Kozo aussi.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs, Étienne Demaragui et Sapin et Sabou de Cabinda. Étienne, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Daniel Kachama, bonjour l'invité.
Quelle est votre
merci
question?
Beaucoup. J'ai suivi l'invité avec beaucoup d'intérêt. Il vient d'affirmer que jusque-là, il n'y a pas une dispositif de la loi prévu pour décourager ces pratiques. Alors, comme il n'y a pas une loi jusque-là, prévue pour décourager ces pratiques de formation, l'invité peut nous aider avec pour que cette mesure soit découragée, parce que je suis également candidat à la députation nationale et cette pratique semble très gagner l'intérêt par-ci par-là, même si chez nous, chez Amadou. Et en plus, je dis Daniel, je veux ajouter en disant que notre pays a un sérieux problème de l'application. Donc, la République, la loi, jusque-là, l'application pose des sérieux problèmes et c'est ce qui favorise même des histoires. Parler de la désinformation, le cas concret, vous venez de voir les jours passés, il y a le cas même des campagnes précoces. Donc c'est tout ça, ce sont des manques d'application, c'est-à-dire la légèreté d'appliquer les lois totalement comme il faut. Alors, monsieur Vitin, est-ce qu'il y a un cas concret de sanctions de la désinformation?
Voilà. Est-ce qu'il y a un cas concret de sanctions?
Oui, voilà.
D'accord.
Oui, c'est la telle province, voilà. Et voilà, c'est un peu ça, ma petite préoccupation. Mais les autres questions, je crois, les autres auditeurs précédents ont tout éclairé les choses. Merci et bonne nuit.
Merci, Étienne Demaragui. Sapin de Cabinda, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur. Bonjour à toute l'équipe de la radio. Merci. Et je vous invite. J'ai aussi à intervenir.
Quelle est la question?
De nuire des autorités politiques participatives et de la période de campagne qui nous partiront ici en Égypte. C'est toujours une émission, je suis aussi à intervenir parce que l'informatique a déjà évolué on se rendait compte tout ce qui se passe dans les vidéos, je pense qu'on peut encore beaucoup des problèmes créés justement en République démocratique du Congo. Sur ce point-là, il s'agit de regarder les vidéos sur Facebook, sur TikTok. Quand on regarde les vidéos, on reste calme parce qu'il y a des gens qui sont en train de monter et prendre les images. Les personnes télécom, c'est de mettre des parts, les personnes n'ont pas envie de parler. Il ne serait pas nécessaire ces vidéos-là parce que sont des images informatiques à déjà évoluées, que nous parcourons la période de pré-campagne à RDC, une période qui a toujours eu beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes. Merci à tous ceux qui pouvaient intervenir.
Merci Sapin, bien que on n'a pas très bien capté ce que vous avez dit à cause de la liaison n'était pas très très claire. Professeur Kodjo Ndoukouma, vous avez la parole.
Bon, je voudrais répondre à Monsieur Safari sur WhatsApp. En fait, en droit, c'est ce qui est difficile avec le droit du numérique. Vous avez les lois étatiques qu'on appelle le hard law. Et vous avez les règles du marché, les règles de la communauté internaute qui s'appelle la soft law. Donc WhatsApp avait refusé qu'il y ait prolifération de la désinformation en bloquant le nombre de personnes dans des groupes à 250 et pas plus. Et donc quand on diffuse une fausse information, la portée, le rayon est limité. Mais maintenant, ils ont revu leurs règles. On peut même agréger des groupes WhatsApp et avoir même à parler à 5000 personnes en même temps. Et puis WhatsApp avait fermé la possibilité de transférer une information à deux groupes. Donc il fallait le faire à chaque fois. En fait, c'était pour limiter la propagation des informations qui souvent sont des canulars et qui intéressent beaucoup de personnes mais sans beaucoup de qualité. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur Ismaël de Lubumbashi. Oui, il y a des arrestations et des traductions en justice des personnes concernées par la désinformation. Vous avez le cas Roubaix-Rois. C'est l'une des premières jurisprudences en la matière où une personne attaquée pour des raisons de faciès ses origines. Et il y a un tribunal normal, je crois que c'est le TGI, qui a fait aboutir le dossier. Vous avez le cas Barnabé, qui avait dit président Kolia Mbouma. Vous avez le cas Henri Magie, mais ça s'est soldé par des offenses au chef de l'État. Mais vous avez aussi ce cas qui a un peu suivi, hein, depuis l'étranger, on se rend bien compte en n'étant pas toujours à Kinshasa, de cette diffusion sur Jeune Afrique d'une information que le gouvernement a démentie. Donc le fait que le gouvernement, par son porte-parole, a démenti l'authenticité d'un rapport, fait que tout ce qui a été dit sur base de ce rapport est un faux. Et il y a une procédure judiciaire en cours que je ne suis pas en droit de commenter. Donc il y a des cas, c'est vrai que ça devait être plutôt légion d'avoir des cas de jurisprudence, mais on en a quelques-uns qui quand même montrent que le droit s'applique. Et dans le cadre de l'affaire en cours, on a parlé également des articles du Code du numérique assez récents de mars 2023 à charge de la personne qui est inculpée. Vous avez la question sur la proclamation contradictoire des résultats vers lesquels on y va. La loi électorale interdit aux journaux télévisés de pouvoir proclamer les résultats électoraux et même la période de campagne électorale est limitée de sorte que les médias classiques, les médias traditionnels sont limités dans le temps des élections à ne plus faire la propagande. Mais ça continue sur les réseaux sociaux. Mais peut-on dire que dans le passé, quand on coupait Internet, justement pour éviter qu'il y ait l'État ou la CENI qui soit pris de vitesse, est-ce que c'était une bonne chose? Dans le passé, on a vu une stratégie, c'était une stratégie de coupure de l'Internet comme étant moyen d'accès, parce que on n'était pas en mesure de suivre, nous, l'État, au même rythme, au même titre, au même rythme, l'évolution de nous, citoyens, dans l'information pendant la période électorale. Donc, l'Église catholique, en l'espèce, disait avoir 40 000 smartphones pour pouvoir prendre des photos des résultats dans chaque bureau et pouvoir les remonter sur Internet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Internet a été coupé,
pour permettre à ce que ce ne soit que la CENI qui soit en mesure de proclamer les élections. Mais une chose qu'on ne dit pas, et que je ne peux pas dire non plus à la radio, c'est qu'en utilisant aussi, bon je le dis, les machines à voter, à un moment donné, la CENI elle-même a été tributaire du réseau Internet pour la remontée de ces informations, chose qui n'a pas été possible, et la CENI, l'année aux élections dernières, a dû se servir des clés USB et manuellement pour remonter l'information jusqu'à la centrale et publier les résultats. Donc c'est pour dire que l'accès à Internet peut jouer d'un côté comme de l'autre. Alors, il y a une question sur la crédulité des internautes. Oui, il n'y a pas de monitoring de médias qui se fasse, Monsieur Étienne de Mahagui. Ce qui se passe dans la vraie vie, toutes les chaînes de télévision sont suivies dans un centre de monitoring des médias qui se trouve au niveau du CESAC. Mais qui récolte les tendances qu'il y a sur Internet? Lorsque vous regardez sur Google, vous partez sur les tendances de recherche ou des diffusions des informations sur votre pays, vous trouvez que Google dit que, par exemple, au Congo, on regarde plus des contenus bibliques et aussi, en cinquième position, des contenus à caractère sexuel. Mais quels sont les moyens dont nous disposons, comme le disait Monsieur Longenja, pour pouvoir faire le monitoring également d'Internet dans le pays, de suivre les adresses IP et de suivre les emails? Ça veut dire les emails, c'est pas les adresses IP, mais c'est les identifiants de l'appareil que vous utilisez. Oui. Dans d'autres pays, comme en France, on exige à ce que les opérateurs de télécommunications gardent ces informations pour qu'on sache quel est le patient zéro qui a envoyé la photo. Observez que lorsque vous avez déjà ouvert une photo dans un groupe et que vous allez rouvrir cette photo dans un autre groupe, la photo ne se retélécharge pas. La photo s'ouvre immédiatement. Ça veut dire que cette même photo qui est dupliquée a une origine et
professeur
la personne
Kodjo.
Zéro.
Ouais, professeur Kodjo, comme on n'a plus beaucoup de temps, on va bientôt clôturer cette première partie de l'émission. Alors, quelles sont les précautions que les internautes peuvent prendre pour ne pas être victimes de la désinformation?
Ah, voilà, il faut douter de tout. Il faut pouvoir appréhender les choses pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles paraissent. C'est un principe de cybersécurité qui fait de chacun de nous le maillon de la sécurité. Et la sécurité ne s'apprécie pas à son maillon le plus fort, mais à son maillon le plus faible. Ça signifie que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes les acteurs d'une cybercriminalité par propagation de fausses informations. Et donc, il faut quelque part, un, que lorsque vous recevez une information, vous en doutiez, vous recherchez ça dans une autre source. Si vous ne trouvez pas des sources qui concordent, vous arrêtez de diffuser parce que en envoyant une information dans un groupe et vous dites à vérifier, vous contribuez justement à la propagation de la désinformation. Et puis, il y a des moyens beaucoup plus poussés, celui d'utiliser Google Images. Vous prenez une image qu'on vous envoie, vous l'entrez dans le modèle moteur de recherche. Et
merci, professeur.
Google va vous montrer l'image zéro.
Merci.
Voilà. Merci d'avoir eu depuis l'étranger. Merci.
Merci, professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique. À la prochaine.